Conan Doyle, le récit de l'Américain. « Cela vous a un air étrange, » disait-il au moment où j'ouvris la porte de la chambre où se réunissait notre cercle mi-social-militaire. « Mais je pourrais vous raconter des choses bien plus drôles que celles-là, diablement plus drôles. » Comme vous le voyez, ce n'est pas les gens qui savent enfiler les mots anglais correctement et qui ont reçu de bonnes éducations qui se trouvent dans les drôles d'endroits où je me suis vu. Messieurs, la plupart du temps, c'est des gens grossiers qui savent tout juste se faire comprendre de vive voix. Et bien moins encore d'écrire avec la plume et l'encre les choses qu'ils ont vues. Mais s'ils le pouvaient, ils vous feraient dresser les cheveux d'étonnement à vous autres, Européens. Oui, messieurs, c'est comme ça. Il se le met, je crois, Jefferson Adams. Je sais que ses initiales étaient J.A., car vous pouvez les voir encore profondément gravées à la pointe du couteau sur le panneau d'en haut et à droite de la porte de notre fumoir. Il nous légua ce souvenir, ainsi quelques dessins artistiques exécutés par lui avec du jus de tabac sur notre tapis de Turquie. Mais à part ces reliques, notre américain conteur d'histoire a disparu de notre monde. Il flamba comme un météore brillant au milieu de nos banales et calmes réunions et alla se perdre dans les ténèbres extérieures. Ce soir-là, cependant, notre hôte du Nevada était complètement lancé. Aussi, j'allumai tranquillement ma pipe et m'installai sur la chaise la plus proche en me gardant bien d'interrompre son récit. « Remarquez-le bien, » reprit-il, « je ne veux pas chercher l'oise à vos hommes de science. J'aime, je respecte un type qui est capable de mettre à sa place n'importe quelle bête ou plante, depuis une baie de houx jusqu'à un ours grizzly, avec des noms à vous casser la mâchoire. Mais si vous voulez des faits vraiment intéressants, des faits pleins d'un jus savoureux, adressez-vous à vos baleiniers, à vos gens de la frontière, à vos éclaireurs, aux hommes de la baie d'Hudson, des gaillards qui savent à peine signer leur nom. » Il y eut alors une pause, pendant laquelle Master Jefferson Adams sortit un long cigare et l'alluma. Nous observions un rigoureux silence, car l'expérience nous avait appris qu'à la moindre interruption, notre Yankee rentrait aussitôt dans sa coquille. Il regarda autour de lui avec un sourire d'amour-propre satisfait, et remarquant notre air attentif, il reprit à travers une auréole de fumée. « Eh bien, lequel de vous, gentlemen, est jamais allé dans l'Arizona ? Aucun, je parie. Et parmi tous les Anglais et Américains qui promènent la plume sur le papier, combien y en a-t-il qui sont allés dans l'Arizona ? Bien peu, j'en suis sûr. J'y suis allé, monsieur. J'y ai vécu des années. Et quand je pense à ce que j'y ai vu, c'est à peine si je me crois moi-même aujourd'hui. Oh, en voilà un du pays. J'étais du nombre des flibustiers de Walker. On avait jugé à propos de nous qualifier ainsi. Après que nous eûmes été dispersés et notre chef fusillé, plusieurs d'entre nous se frayèrent des routes et s'installèrent par là. C'était une colonie anglaise et américaine au grand complet, avec nos femmes et enfants. Je crois qu'il en reste encore des anciens qui n'ont pas encore oublié ce que je vais vous raconter. Non, je vous garantis qu'ils ne l'ont point oublié tant qu'ils seront de ce côté-ci de la tombe. Mais je parlais du pays et je parie que je vous étonnerais énormément si je ne vous parlais pas d'autre chose. Songez qu'un tel pays aurait été fait pour quelques graisseurs et quelques demi-sangs. C'est faire un mauvais usage des bienfaits de la Providence, je vous le dis. L'herbe y poussait plus haut que la tête d'un homme à cheval, et des arbres si serrés que pendant des lieues et des lieues, vous n'arriviez pas à entrevoir un bout de ciel bleu et des orchidées grandes comme des parapluies. Peut-être quelqu'un de vous a-t-il vu une plante qu'on appelle piège à mouche quelque part dans les États. Dionoia muscipula, dit à demi-voix Dobson, notre savant par excellence. Ah, 10 sonnets de municipal, c'est ça. Vous voyez une mouche se poser sur cette plante-là. Alors vous voyez aussitôt les deux battants de la feuille se rapprocher brusquement et tenir la mouche prisonnière entre eux, la broyer et la triturer en petits morceaux. Ça ressemble à s'y méprendre à une grande pieuvre avec son bec. Et des heures après, si vous ouvrez la feuille, vous voyez le corps de la mouche à moitié digéré en menus morceaux. Eh bien, j'ai vu dans l'Arizona de ces pièges à mouche avec des feuilles de 8 de 10 pieds de long, des épines ou dents d'au moins 1 pied. Elles étaient capables de... Ah non, mais Dieu me donne, je vais trop vite. C'était la mort de Joe Hawkins que je voulais vous raconter. C'est bien la chose la plus étrange que vous puissiez jamais entendre. Il n'y avait personne du Montana qui ne connût Joe Hawkins, Alabama Joe, comme on l'appelait là-bas. C'était un homme de plein air, je vous en réponds, mais le plus damné putois qu'un homme ait jamais vu. Un bon garçon, souvenez-vous-en, tant que vous le caressiez dans le sens du poil, mais pour peu qu'on le blagât, il devenait pire qu'un chat sauvage. Je l'ai vu tirer ses 6 coups dans une foule d'hommes qu'il bousculait pour l'entraîner dans le bar de Simpson, alors qu'une danse était en train. Et il planta son bowl knife dans Tom Hooper parce que celui-ci lui avait versé par mégarde son verre sur son gilet. Non, il ne reculait pas devant un assassinat, Joe. Oh non, il ne fallait pas avoir confiance en lui tant que vous n'aviez pas l'œil sur lui. Car au temps dont je parle, alors que Joe Hawkins faisait le matin mort par la ville et piétinait la loi sous son revolver, il y avait là un Anglais nommé Scott, Tom Scott, si je me souviens bien. Ce diable de Scott était un Anglais pour tout de bon. Je demande pardon à la compagnie présente. Et pourtant, il ne plaisait guère à la bande d'Anglais de là-bas, où la bande d'Anglais ne lui allait pas beaucoup. C'était un homme tranquille, ce Scott, même trop tranquille pour une population aussi rude que celle-là. On l'appelait sournois, mais il ne l'était pas. Il se tenait le plus souvent à l'écart et ne se mêlait d'aucune affaire tant qu'on le laissait tranquille. Certains disaient qu'il avait été, comme qui dirait, persécuté dans son pays, qu'il avait été chartiste ou quelque chose dans le genre, qu'il lui avait fallu lever le pied et décamper, mais il n'en parlait jamais lui-même et ne se plaignait jamais. Il n'avait personne pour soutenir dans ses ennuis, car, comme je le disais tout à l'heure, c'est à peine si les Anglais le regardaient comme l'un des leurs. Et on lui fit plus d'une mauvaise farce. Il ne répondait jamais grossièrement. Il était poli avec tout le monde. Je crois que les gens en vinrent à croire qu'il manquait d'énergie jusqu'au jour où il leur montra qu'il se trompait. Ce fut au bar de Simpson que le coup se monta et ça aboutit à la drôle de chose que j'allais vous conter. Alabama Joe et un ou deux autres vauriens en voulaient alors à mort aux Anglais, et ils disaient ouvertement ce qu'ils pensaient, quoique je les eusse avertis que ça pourrait bien aboutir à une terrible affaire. Ce soir-là, en particulier, Joe était plus qu'à moitié ivre. Il faisait le fanfaron par la ville avec son revolver, et cherchait quelqu'un avec qui se chamailler. Alors il retourna au bar, où il était certain de rencontrer quelqu'un des Anglais aussi disposé à une querelle qu'il l'était lui-même. Et pour sûr, en effet, Il y en avait une demi-douzaine qui flânait par là, et Tom Scott était debout seul devant le poêle. Joe s'assit près de la table et mit devant lui son revolver et son Bowie knife. Les voici mes arguments, Jeff, me dit-il. Si jamais un de ces Anglais au foie blanc ose me donner un démenti. Je tentais de l'arrêter, messieurs, mais il n'était pas homme à se laisser convaincre si aisément, et il se mit à tenir des propos tels que personne ne pouvait les endurer. Oui, un graisseur lui-même aurait pris feu si vous lui aviez tant parlé du pays de la Grèce. Il y eut de l'émotion dans le bar, et chacun mit la main sur ses armes, mais avant qu'ils eussent le temps de les tirer, on entendit une voix calme, partant du côté du poêle, dire « Faites vos prières, Joe Hopkins, car par le ciel vous êtes un homme mort. » Joe fit demi-tour et fit le geste de prendre son arme, mais ça ne servait à rien. Tom Scott était debout et le tenait sous son derringer. Sa face pâle était souriante, et c'était le diable en personne qu'on voyait dans ses yeux. « Ce n'est pas que le vieux pays se soit montré bien tendre pour moi, dit-il, mais jamais personne n'en dira du mal devant moi. » Pendant une ou deux secondes, je vis son doigt presser peu à peu sur la gâchette. Puis il éclata de rire, et jetant son revolver à terre. « Non, dit-il, je ne peux pas tuer un homme qui est à moitié ivre. Gardez votre sale existence, Joe, et employez-la mieux que vous n'avez fait. Vous avez été plus près de la tombe ce soir que vous ne le serez jamais, jusqu'à ce que votre heure soit venue. Vous ferez mieux de partir pour la forêt, je parie. Non, ne me regardez pas de cet air farouche. Je n'ai pas peur de votre arme. Un fanfaron est bien près d'être un lâche. » Et il fit demi-tour d'un air méprisant, ralluma au poêle sa pipe qu'il n'avait pas fini de fumer, pendant qu'Alabama s'esquivait du bar, accompagné par les rires bruyants des Anglais. Je vis sa figure quand il passa près de moi, et sur cette figure, je vis l'assassinat. Messieurs, oui, l'assassinat, aussi clairement que la chose que j'ai jamais vu le plus clair. Je m'attardai au bar après cette querelle et je regardai Tom Scott, à qui tous les hommes allaient serrer la main. Ça me semblait, comme qui dirait, étrange de lui voir l'air si souriant et si gai, car je connaissais le caractère sanguinaire de Joe et je me disais que l'Anglais n'avait guère de chance de voir le lendemain matin. Il habitait dans un endroit en quelque sorte désert, vous savez, tout à fait en dehors de la route battue, et il lui fallait pour s'y rendre passer par le ravin du piège à mouches. Ce ravin-là était un endroit sombre et marécageux, fort solitaire même en plein jour, car ça vous donnait le frisson rien que de voir ces grandes feuilles de 8 ou 10 pieds de long se fermer brusquement pour peu que quelque chose les touche. Mais la nuit, il n'y avait pas une âme dans les environs. En outre, dans certains endroits du ravin, le sol était mou jusqu'à une grande profondeur, et si on avait jeté un corps, on ne l'aurait plus revu le lendemain. Je croyais voir Alabama Joe tapi sous les feuilles du grand piège à mouches, dans la partie la plus sombre du ravin, l'air farouche, le revolver en main. Je le voyais presque, messieurs, comme si je l'avais eu sous les yeux. Vers minuit, Simpson ferme son bar, en sorte qu'il nous fallut partir. Tom Joe Scott se mit en route d'un bon pas pour son trajet de 3 miles. Je n'avais pas manqué de lui glisser un mot d'avertissement quand il passa près de moi, car j'avais une sorte d'affection pour mon homme. Tenez votre derringer bien libre dans votre ceinture, monsieur, que je dis, car il pourrait se faire que vous en ayez besoin. Il me regarda bien en face avec un sourire tranquille, et alors je le perdis de vue dans l'obscurité. J'étais convaincu que je ne le reverrais plus. Il avait à peine disparu que Simpson vient à moi et me dit « Il va y avoir une jolie affaire au ravin de piège à mouche cette nuit. Les garçons disent qu'Hopkins est parti une demi-heure à l'avance pour attendre Scott et le tuer à bout portant. Je suis d'avis que le coroner aura de la besogne demain. » Que se passa-t-il dans le ravin cette nuit-là? C'était une question qu'on ne manqua pas de se poser le lendemain matin. Un demi-sang était à la pointe du jour dans la boutique de Ferguson. Il raconta qu'un peu auparavant, il s'était trouvé aux environs du ravin vers 1 heure du matin. Il ne fut pas facile de lui faire raconter son histoire, tellement il avait l'air effrayé, mais à la fin, il nous dit qu'il avait entendu des cris épouvantables au milieu du silence de la nuit. Il n'y avait point eu de coup de feu, mais une série de hurlements, comme qui dirait des hurlements étouffés, tels qu'en jetterait un homme qui aurait la tête dans un sérap et qui souffrirait à mort. Abner Brandon, moi et quelques autres, nous étions alors à la boutique. Nous montâmes donc à cheval pour nous rendre à la maison de Scott, et pour cela on traversa le ravin. On n'y remarquait rien de particulier, point de sang, point de marque de lutte. Et quand nous arrivons à la maison de Scott, il sortit au-devant de nous, aussi guilleret qu'une alouette. « Hello, Jeff, qu'il dit. Pas du tout besoin de pistolet. Entrez prendre un cocktail, les camarades. » « Avez-vous vu ou entendu quelque chose cette nuit en rentrant chez vous, que je dis ?»« Non, répondit-il, ça s'est passé bien tranquillement. Une sorte de plaine jetée par une chouette dans le ravin du piège à mouche, et voilà tout. Alors, et puis à terre et prenez un verre. » « Merci, dit Abner. » Alors nous descendons, et Tom Scott nous accompagna à cheval, quand nous repartîmes. Une agitation énorme régnait dans la grande rue quand nous y arrivâmes. Le parti des Américains avait l'air d'avoir perdu la tête. Alabama Joe avait disparu. On n'en retrouvait pas miette. Depuis qu'il était allé au ravin, personne ne l'avait revu. Lorsque nous mîmes pied à terre, il y avait un nombreux rassemblement devant le bar à Simpson, et je vous réponds qu'on regardait de travers Tom Scott. On entendit armer les pistolets, et je vis Scott mettre lui aussi la main à sa ceinture. Il n'y avait pas l'ombre d'un Anglais en cet endroit. « Écartez-vous, Jeff Adams. » Faites Zeb Frey, le plus grand coquin qui ait existé. Vous n'avez rien à voir dans cette affaire. Dites donc, les amis, est-ce que de libres Américains vont se laisser assassiner par un maudit Anglais? Ce fut la chose la plus prompte que j'ai jamais vue. Il eut une mêlée et un coup de feu. Zeb était par terre, avec une balle de Scott dans la cuisse, et Scott, lui aussi, était par terre, maintenu par une douzaine d'hommes. Cela ne lui aurait servi à rien de se débattre, aussi ne bougeait-il pas. Ils parurent ne pas savoir ce qu'ils feraient de lui, Puis un des amis intimes d'Alabama les décida. Joe a disparu, qu'il dit. C'est tout ce qu'il y a de plus certain. Et voici l'homme qui l'a tué. Quelqu'un de vous sait qu'il est allé au ravin cette nuit pour affaire. Il n'est pas revenu. Cet Anglais que voilà y est allé de son côté après lui. Ils se sont battus, on a entendu des cris du côté des grands pièges à mouche. Il aura joué au pauvre Joe un de ses tours de sournois et l'aura jeté dans le maquereau. C'est pas étonnant que le corps ait disparu. Est-ce que nous allons rester comme ça et laisser tuer nos camarades par les Anglais? Non, n'est-ce pas? Qu'ils comparaissent devant le juge Lynch, voilà mon avis. Lynchons-le ! Crièrent sans voix furieuses, car à ce moment-là toute la colonie était accourue jusqu'au dernier gredin. Allons, les enfants, qu'on apporte une corde, hissons-le, pendons-le à la porte de Simpson. Attendez un moment, dit un autre en s'avançant. Pendons-le à côté du grand piège à bouche, dans le ravin. Que Joe voit qu'il est vengé, puisque c'est par là qu'il est enterré. On applaudit à grands cris, et ils partirent, emmenant au milieu de Scott ficelé sur un mustang, et entouré d'une garde à cheval, le revolver prêt à tirer, car nous savions qu'il y aurait par là une vingtaine d'Anglais qui n'avaient pas l'air de reconnaître le juge Lynch et qui n'attendaient que le moment de livrer bataille. Je partis avec eux, le cœur bien ému de pitié pour ce pauvre Scott, qui pourtant n'avait pas l'air ému pour un sou, non, pas du tout. C'était un homme rudement trempé. Ça vous paraît comme qui dirait bizarre de pendre un homme à un piège à mouche. Mais le nôtre était bel et bien un arbre. Les feuilles étaient comme des bateaux accouplés, avec une charnière entre les deux et les épines au fond. Nous descendîmes dans ce ravin jusqu'à l'endroit où poussait le plus grand de ces arbres, et nous le vîmes avec des feuilles fermes et d'autres étalées. Mais nous vîmes en cet endroit autre chose encore. Debout autour de l'arbre était une trentaine d'hommes, tous des Anglais et armés jusqu'aux dents. Évidemment, ils nous attendaient et avaient l'air fort disposés dans la besogne. Ils étaient venus pour quelque motif et ils entendaient bien parvenir par leur but. Il y avait là tous les matériaux voulus pour faire la plus belle mêlée que j'eusse jamais vu. Comme nous arrivions, un grand Écossais à barbe rousse, il se nommait Cameron, fit quelques pas en avant des autres, tenant son revolver armé. Voyez, mes gaillards, vous n'avez pas le droit de toucher un cheveu de la tête de cet homme. Vous n'avez pas encore prouvé que Joe était mort. Et quand vous l'aurez prouvé, vous n'auriez pas prouvé que c'est Scott qui l'a tué. En tout cas, il aurait été en cas de légitime défense, car vous savez tous que Joe était en embuscade pour tuer Scott, pour l'abattre à bout portant. Donc, je vous le répète, vous n'avez nullement le droit de toucher à cet homme. Et ce qui vaut encore mieux, j'ai réuni 30 arguments à 6 coups chacun pour vous dissuader de le faire. C'est un point intéressant et qui vaut la peine d'être discuté, dit l'homme qui était le camarade intime de l'Alabama Joe. On entendit armer des pistolets, tirer des pistolets, tirer des couteaux, et les deux troupes se mirent à tirer l'une sur l'autre. Il était évident que la moyenne de la mortalité allait s'élever dans le Montana. Scott était debout en arrière avec un pistolet à l'oreille s'il faisait un mouvement. Il avait l'air aussi tranquille, aussi calme que s'il n'avait point son argent sur la table de jeu, quand tout à coup il sursaute et jette un cri qui retentit à nos oreilles comme un coup de trompette. Joe, crie-t-il, Joe, regardez, le voici dans le piège à mouche. Tout le monde se retourna et regarda du côté qu'il montrait. Oh, Jérusalem, je crois que ce tableau ne s'effacera jamais de notre mémoire. Une des grandes feuilles du piège à mouche, qui était restée fermée et allongée sur le sol, commençait à s'entrouvrir peu à peu sur la charnière. Dans le creux de la feuille, Joe Alabama était étendu comme un enfant dans son berceau. En se fermant, la feuille lui avait enfoncé lentement à travers le cœur ses longues épines. Nous vîmes bien qu'il avait fait une tentative pour s'ouvrir un passage et sortir, car il y avait une fente dans la feuille épaisse et charnue, et il avait son Bowie knife dans la main, mais la feuille avait déjà enserré. Sans doute, il s'était couché dedans pour attendre Scott à l'abri de l'humidité, et elle s'était refermée sur lui, comme vous voyez vos petites plantes de terre chaudes se fermer sur une bouche. Et nous le trouvâmes là, tel qu'il était, déchiré, réduit en bouillie par les grandes dents rugueuses de la plante cannibale. Voilà la chose, messieurs, et vous conviendrez que c'est une curieuse histoire. Et qu'advint-il de Scott ? Demanda Jack Sinclair. Eh bien, nous le remportâmes sur nos épaules jusqu'au bar de Simpson, et il nous paya une tournée. Et même il fit un speech, un fameux speech encore, debout sur le comptoir. Ça parlait du lion anglais et de l'aigle américain, qui désormais irait bras dessus. À présent, messieurs, comme l'histoire était longue et que mon cigare est fini, je crois que je vais me trotter avant qu'il soit plus tard. Il nous souhaita le bonsoir et sortit. Voilà une histoire bien extraordinaire, dit Dobson, qui aurait cru qu'une Yononéa aurait une telle puissance. « Une histoire diablement trouble, » dit le jeune Sinclair. « Évidemment, » dit le docteur, « c'est un homme qui s'en tient à la vérité la plus prosaïque. Oh, ou bien c'est le menteur le plus original qui fut jamais. Je me demande lequel des deux avait raison. »